Popopien, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Popopop est une émission pour qui le mot francophonie a un sens. Certes, il nous arrive d'inviter des anglo-saxons, car ne nous le cachons pas, ces gens-là s'entendent aussi à produire du divertissement de bonne tenue, qu'il soit musical, cinématographique, romanesque ou autre. Mais enfin, franchement, on est bien mieux entre locuteurs français. On se comprend. Alors bien sûr, la loi des quotas s'applique ici aussi et de la même manière que l'on réserve des accès handicapés dans tous les lieux publics, il nous faut contractuellement accueillir régulièrement des invités de la galaxie francophone. Ce qui explique la présence régulière d'artistes québécois, principalement des cinéastes et des chanteurs dans notre studio. Et ce qui débouche toujours sur des situations assez cocasses, car là encore, ne nous voilons pas la face, nous ne comprenons pas toujours ce qu'ils essaient de nous dire, quelle que soit la conviction qu'ils y mettent. La faute à cet accent pittoresque, certes, qui ajouté à des expressions cryptiques du type « ça me bouillonne dans le fond de la flûte » ou « je vais te mettre le petit Jésus dans la crèche » rendent improbables nos conversations radiophoniques. Autant de menus tracas, largement compensés par le talent de nos invités, comme vous allez en avoir une nouvelle fois la preuve aujourd'hui. Le magnifique, l'excellent Denis Arcand est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Paule.
Bonjour Denis Arcand.
Bonjour, je me sens comme l'handicapé obligatoire. qu'on doit inviter pour satisfaire des quotas.
Le quota, ça vous bouillonne dans le fond de la flûte?
Oui, non, oui, si vous voulez.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça me bouillonne dans le
ça
fond de la flûte?
Ça veut rien dire, c'est pas une expression québécoise.
Ah bon?
Je ne sais pas qui sont vos recherchistes, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est que
c'est la première fois que vous l'entendez?
C'est la première fois que je l'entends.
D'accord, donc ça ne bouillonne pas dans le fond de la flûte. À mes côtés...
Moi, je croyais que c'était une expression auvergnate.
À mes côtés, le côté picor de Popopop, Charline Roux.
On n'a dit pas les accents, Antoine, vous le savez. Bonjour Antoine,
bonjour
Denis.
Bonjour. Au menu également de Popopop, celui qui a fait les premières parties de Blanche Gardin fera la seconde partie de Popopop.
Pour moi, le couple, c'est comme une raclette. C'est-à-dire que c'est bien l'hiver, le dimanche ou les jours fériés quand t'as que ça à foutre. Voilà.
Bien, rendez-vous tout à l'heure avec Émeric Lompré. Mais avant ça, Denis Arcand, ici, il existe une question encore plus cryptique que je vais te mettre le petit Jésus dans la crèche. C'est québécois, ça.
Non plus.
Non plus, bon, d'accord. Et cette question...
Ça n'a absolument rien à voir avec le Québec.
Et cette question, c'est... Pour vous. C'est quoi la pop culture, Denis Arcand? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses focailleuses, gnochonnes, foufounantes, malendurantes ou parfois snoraudes. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre concitoyen Hubert Lenoir. Écoutez.
Pour moi, je pense que c'est pas très compliqué. Je pense que c'est seulement la culture, donc les choses qu'on connaît, même si on n'aime pas nécessairement, comme par exemple, tout le monde connaît les Kardashians, tout le monde connaît... Bah, fait une époque Pamela Anderson, tout le monde connaît un artiste par exemple comme Kanye West fait partie de la pop culture sans nécessairement apprécier, c'est là puis ça existe.
Bien. Et pour vous, Denis Arcand?
Pour moi, au départ, ça a été Elvis Presley. Parce que et au départ, je n'arrivais pas à le voir parce qu'il apparaissait de temps en temps dans quelques émissions américaines et il était censuré. Et donc c'était on croyait qu'il allait être là dimanche soir. Alors, on écoutait la télé dans l'espoir de le voir, enfin. Et puis, quand on a réussi à le voir et après ça, acheter les disques, c'était merveilleux, c'était extraordinaire, c'était mon idole. Et puis après ça, ça a été les Beatles, les Rolling Stones. Et après, ça a été fini.
Ouais, ouais.
Parce qu'il paraît que dans le domaine de la pop culture, ce qu'on écoute à 20 ans, ça nous détermine pour toujours. Et après, le reste, j'ai pas suivi. Là, j'étais trop vieux, etc. Mais en même temps, le terme de pop culture, c'est étrange parce que ce qui est pop peut devenir classique. Comme par exemple, au 18e siècle, Mozart, c'était un compositeur extrêmement populaire. Les gens chantaient ses airs, etc. Ils jouaient dans la rue. Et c'était de la pop culture à ce moment-là. Et après ça, ça devient de la haute culture. Alors, il y a des gens qui réussissent à passer. Probablement qu'il y a certaines chansons des Beatles, probablement, qui vont devenir hyper classiques, qui sont là pour tout le temps. Et dans 15 ans, les gens n'auront plus comprendre ça. C'est-à-dire, les jeunes, ils écouteront pas ça du tout. Ils vont dire, la musique de nos grands-parents ou je sais pas quoi. Mais il va rester une part de ça qui est éternelle.
Alors, je résume, la pop culture d'aujourd'hui, c'est la culture classique de demain. Et votre pierre de rosette à vous, c'est Elvis Presley.
Oui.
Je crois que nous avons la même.
Ah bah oui, oui, ça trahit votre
âme. Carbone 14, hop direct. La pop, là, ne nous regardez pas comme ça, Charline. Enfin,
regarde comme je regarderais les grottes de Lascaux. Excusez-moi.
Vous regarderiez votre grand-père, oui. Bah, alors,
attention, parce que là, votre haleine peut détruire les grottes de Lascaux. Vous savez, non.
Là, soyez très prudent. Très, très, très loin.
La pop, la culture et la pop culture. On en parle juste après une chanson. C'est Tout oublié de Madame Esvent, plus connue sous le nom de scène de Angèle.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Tout oublié, c'est un morceau de Angèle qui a d'ailleurs oublié qu'elle s'appelait Madame Esvent et c'est extrait de l'album Brawl. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité à qui ne manque qu'un seul César pour faire une table basse. Mais de qui s'agit-il? Réponse avec son pop portrait. Alors un pop portrait, c'est votre portrait, Denis, mais... Et c'est signé Charline Rourourou.
N'ayant pas le talent d'Antoine, qui a l'oreille absolue en matière d'accent, vous l'avez entendu, et qui les reproduit donc à la perfection. Allez-y Antoine, des mots accent belge.
Oh ben ça, je peux pas le faire quand vous voulez.
Voilà. Bref, n'ayant pas son talent, disais-je, pour faire sonner l'accent chantant de la fort belle province de notre invité, me voilà fort dépourvu, car oui, alors la bise est venue, mais surtout mon verbe va sembler bien plat à un homme qui est habitué à l'entendre plus habité que ce que je fais, la parlure. Bien embêté aussi, parce que la fort belle province associée à cet accent est précisément, dans toutes ses spécificités, le sujet du dit invité. Mais il y a pour particularité, et c'est heureux d'avoir réussi à en restituer tous les aspects dans une large filmo qui a, elle aussi, largement dépassé les rives du Saint-Laurent et les frontières du Canada. La preuve, il a été multiprimé à Cannes. Meilleur scénario pour Les Invasions Barbares, prix du jury pour Jésus de Montréal, prix de la critique internationale pour Le Déclin de l'Empire américain, 3 Césars pour Les Invasions Barbares, un European Film Award, auquel j'ajoute des Jutras et quelques prix à Toronto, puisque Denis Arcan est aussi prophète en son pays, dont il est un très chic ambassadeur chez nous aujourd'hui, et ce, sans une pointe d'accent. Oh, si.
Subtil.
Très léger.
Mais méfiez-vous.
Très, très léger. Alors moi, je disais en intro du Pop Portrait qu'il ne manquait qu'un seul César pour faire une table basse, mais si vous mettez votre Oscar dans la balance, ça marche?
Ça va, oui, oui. Hein? Un Oscar, c'est presque aussi lourd qu'un César, mais c'est beaucoup moins beau. Le César, c'est beau. C'est le seul trophée que j'ai gardé.
C'est vrai?
Oui, oui, non, j'aime ça. Je trouve ça très joli. C'est une vraie sculpture.
Oui.
C'est pas juste une reproduction de quelque chose. Ou tout ça. Et le seul trophée qu'on a sur au-dessus du foyer chez nous, dans le salon, c'est un César. Un César. Trois, ça aurait été exagéré. Ça fait ça fait parvenu.
Notre pays s'en honore. Bien, Denis Arcand, on l'a compris, la pop culture vous aime, mais est-ce réciproque? Pour le savoir, on va passer à votre pop liste. Hop. Nous vous avons demandé, Denis, de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous n'en avez pas choisi un, non? Vous en avez choisi plusieurs, car il s'agit d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, soit les 7 tomes du roman considéré comme une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps. Rassurez-moi, Charline, aucun rapport, je l'espère, avec cette teigne de Gaspard Proust.
Ni même avec Caroline, qui joue dans l'excellente série Engrenage. Non, là, il est question de l'homme qui fabrique des madeleines. Enfin, à moins que ce soit l'homme qui ait le mieux écrit sur le temps, sa fuite et la mémoire affective. Goncourisé pour le volume 2 de cette recherche à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
Bien. Denis, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait et choisissez bien la phrase, s'il vous plaît, parce qu'il leur arrive de faire 3 pages.
Oui, ça va être compliqué pour un pauvre Québécois avec son accent, parce que Proust, bon, ok, je me lance. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour.
Vous lisez magnifiquement, Denis Arcand. En plus, avec ces petits lorgnons très fin de siècle.
Ça va avec. Bah oui, je vais apporter ça spécialement parce que je crois aussi au costume. Pour la photo, ça va être parfait.
Alors, dites-moi pourquoi choisir ce moustachu qui émet tant sa villégiature trouvillaise, un homme de goût décidément, pour écrire?
Parce que... Bon, Proust est surtout célèbre pour des phrases comme celles que je viens de lire, qui sont extrêmement ciselées, très longues, très subtiles. Au-delà de ça, si vous lisez l'œuvre entière, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'étendue du sujet. C'est toute son époque, dont des choses dont on parle moins, comme la Première Guerre mondiale. Il n'est pas allé à la guerre, mais il était super intelligent, puis il était dans son lit enfermé à Paris, mais il savait
avec
tout,
son asthme.
Et il comprenait. Et donc, quand vous lisez cette œuvre immense, vous avez l'impression vraiment de vivre en Europe de 1880 à 1920, et ça couvre tout. Ça couvre la politique, ça couvre la musique, l'histoire de la peinture. C'est colossal. Et au départ, je sais, quand moi j'étais jeune, puis j'ai commencé à étudier la littérature, les gens disaient, oh, Proust, oui, un écrivain mondain, quelque chose de très sensible, très bien, mais bon, ça n'est pas si lourd que ça. Et à mesure que le temps passe, justement, et lui-même le disait, je ne serai connu que dans 40 ans. En fait, ça n'a pas été 40 ans, ça a été 60, 70 ans. Et tout d'un coup, c'est les écrivains étrangers, les Allemands Heinrich Böll ou les Anglais Julian Barnes, tout ça, qui ont dit, mais rendez-vous compte, c'est le plus grand écrivain de la langue française, à part Montaigne, probablement. Et donc, moi, ça me fascine, et des millions de petits détails, comme par exemple... des soldats homosexuels québécois qui étaient très recherchés par les gays parisiens parce qu'ils trouvaient leur accent dont vous parlez, leur accent charmant, et ça les excitait sexuellement. Donc, il y avait des bordels au nord de Paris où des Québécois descendaient du front pour venir satisfaire les appétits lubriques de... français de cette époque, de gens très bien, de la haute société.
Ça devait bouillonner dans le fond de la flûte. Hein.
Bien, peut-être vous allez réussir à la lancer, cette expression.
Oui, c'est ça.
Bien, voilà pour le livre. Alors, votre film culte est là encore un chef-d'œuvre incontesté du 7e art. Il s'agit des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, tourné en 55 et qui a inspiré tant de remakes plus ou moins déclaré. Charline, pourquoi raille-t-il ces 7 sabots?
Mais parce qu'ils sont méchants, Antoine, voire féroces. Ben oui, on parle quand même de 7 types d'un village recruté pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes.
べし。
出現相談だ、そんなことは。
貴様、それは無茶だ。俺たちは百姓だ。戦の仕方なんか知らね
え。そむりゃそうだ。
Sept samouraïs de Kurosawa, le choix de Denis Arcand dans sa pop list. Alors, incontestablement, indubitablement, un chef-d'œuvre du cinéma. Comment expliquez-vous, Denis, l'influence qu'il a exercée sur des cinéastes aussi différents que Tarantino, John Sturges ou Blanche-Neige?
D'abord parce que c'est un scénario génial. Et Kurosawa n'a pas fait que des scénarios géniaux. Il y a souvent dans le cinéma, surtout quand on parle du cinéma d'auteur, en France en particulier, on met tout sur les épaules du réalisateur. Mm-hmm. C'est lui qui est génial, etc.
C'est l'auteur.
En fait, le scénario de Sept Samouraïs, c'est écrit par un certain Monsieur Mashimoto. Mm-hmm. Et Monsieur Mashimoto a fait 4 scénarios, les 4 pour Kurosawa, et c'est les 4 films les plus célèbres de Kurosawa, et avant et après ça, Kurosawa y a ramé. Mmh. Et donc, il y a quelque chose là qui contredit un peu la théorie des auteurs. ce scénario-là est absolument fantastique parce que l'histoire du départ est hallucinante. Mmh. C'est des gens qui se font continuellement voler par des bandits, ils sont toujours ruinés, ils ont rien, et ils se mettent à la recherche de samouraïs pour les défendre. Et ils ont presque pas d'argent. Et ils réussissent à trouver, pour toutes sortes de raisons, et à cause de leur sincérité, de leur dévouement, de leur dénuement, des super samouraïs qui sont inemployés, qui n'ont rien à faire en ce moment, puis qui disent « bon, on va y aller ». Puis il y en a qui y vont en disant « ils ont dû cacher de l'or quelque part, donc on va les défendre, mais après on va trouver leur or, on va les voler », et ainsi de suite. Et là, il y a 40 bandits monstrueux, et ils sont 7 pour se défendre, et il tue tous les bandits. Et donc ça, c'est pour ça que c'est une histoire de western. C'est ça western. A été repris par Sturges. Et puis c'est ce qui fait un assez bon film, d'ailleurs, aux États-Unis.
Il y a encore eu un remake il y a 2-3 ans d'Antoine Fuqua, je crois.
Oui, c'est ça. Oui, exactement. Il y a eu, mais c'est de moins en moins bon, par exemple. Le premier était assez bon, le premier western. Le deuxième était vraiment moins bon. Mais donc, parce que c'est ça. Et aussi parce que, bon, il y a plein de films géniaux, j'aurais pu vous en citer 25, qui m'ont tous influencé et tout ce que vous voulez. Mais si je vous donne un autre, disons, de mes films favoris, Le charme discret de la bourgeoisie, de Louise Bunuel, qui est fabuleux. Mais c'est pas très difficile à faire, Le charme discret de la bourgeoisie. C'est à Paris, avec des très bons acteurs, dans des appartements. À la limite, si j'avais eu le génie de Louise Bunuel, j'aurais pu le faire. Les Sept Samouraïs, c'est 1 an de tournage, 300 jours de tournage dans la forêt avec de la pluie, de l'hiver, des bandits, des chevaux. Et ça, moi, comme réalisateur, quand je regarde ça, je me dis, ah non, ça, j'y arriverai jamais. Ça, c'est pas possible, c'est trop dur. Et donc, voilà une des raisons de mon admiration pour cette œuvre-là.
Bien, je passe à la chanson. Et le Québécois que vous êtes préfère curieusement notre Françoise Hardy, que l'on entend d'ailleurs dans Les Invasions barbares, à votre Céline Dion. La chanson, c'est l'amitié. Rafraîchissons-nous, c'est dur à dire, la mémoire, avant d'en parler.
Alors, ils viennent se chauffer chez moi.
L'amitié, Françoise Hardy. Si je comprends bien, l'amitié, ça compte encore plus pour vous que Céline Dion, Denis Arcand.
Et c'est surtout Françoise Hardy qui compte plus. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu une interview avec Mick Jagger qui disait « Nous étions tous follement amoureux de Françoise Hardy. » Et quand j'avais, je ne me souviens plus, 25 ans, j'étais fou de Françoise Hardy. J'ai tout d'elle. La façon dont elle s'habillait, la façon dont elle chantait sans effort. Elle chantait d'une façon paresseuse. Paresseuse dans le bon sens. Elle était totalement relaxe tout le temps. Elle n'élevait jamais la voix. C'était très doux, très beau. Et elle était d'une beauté fabuleuse. En tout cas, de la beauté qui, moi, m'a toujours séduite, c'est-à-dire la beauté sans apprêt. Elle avait les cheveux droits. Elle avait un petit pull en laine et une jupe et tout ça. Moi, c'était tout à fait mon amour.
Je sais que votre épouse est en régie, qui vous écoute en ce moment, donc vous êtes tenu à un devoir de réserve, mais vous lui avez avoué cette passion?
Non, nous sommes jamais vus. Ah. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'après, quand j'ai fait Invasion barbare, je cherchais une chanson donc pour terminer ce film, Et puis, c'est, je crois, Dominique Besnéard qui a téléphoné à François Hardy, qui a tout de suite dit « Mais oui, il n'y a pas de problème, etc. Mettez-le dans le film et tout. » Mais je n'ai jamais rencontré François Hardy. C'est un amour lointain et délétère.
Dominique Besnéard, fidèle parmi les fidèles, puisqu'il est à nouveau dans la production de La Chute, dont nous allons parler dans quelques instants. Enfin, pour ce qui est des séries, vous avez retenu la première saison de « Mad Men ». Une série créée par Matthew Weiner. Charline, ces hommes foufous qui fument comme des pompiers et boivent comme des trous, c'est ça qui les rend foufous, n'est-ce pas?
Entre autres choses, oui, ils ont aussi du pouvoir, beaucoup de pouvoir. Ils font de la pub, ils sont cool, ce qui ne les rend pas forcément très agréables avec les femmes qui les entourent. Mais heureusement, c'était une autre époque, les temps ont changé. Pardon.
Alors Denis Arcand, pourquoi choisir ces hommes foufous qui fument comme des pompiers et boivent comme des trous?
Mais parce que quand j'ai commencé dans le cinéma... j'ai fait un peu de publicité. Et c'était encore à l'époque où c'était comme Mad Men. Donc, j'avais l'impression de voir ma jeunesse, d'avoir... c'était exactement ça. Avec les gens qui boivent à l'heure du midi, trois dry martinis, avant de rentrer au bureau, comment ils faisaient pour faire ça, j'en ai aucune idée. Les gens qui trompaient leur femme continuellement puis qui rentrent en banlieue le soir, dire mettre leurs enfants au lit et les embrasser, et qui sont très sincères, qui adorent leurs enfants et leurs femmes aussi, mais qui sautent la secrétaire au bureau, etc. Et c'était l'époque de ma jeunesse. Et comme c'est en plus superbement écrit et extrêmement bien joué par des acteurs qu'on connaissait pas, parce que c'est ça le génie des fois de la télévision américaine, c'est qu'ils ont tellement de comédiens disponibles qu'ils arrivent à en trouver qu'on n'a jamais vu et qui font des apparitions extraordinaires, etc. Donc moi, la première saison quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah merde, ma jeunesse en fume. Pas que je la regrettais, parce qu'effectivement, comme vous le dites, il y avait des côtés invraisemblables, puis il fumait tout le temps. Mais je fumais moi-même comme une cheminée, etc. Et tout ça. Donc, ça me touchait particulièrement.
Bien, alors je résume Marcel Proust, Les Sept Samouraïs, François Hardy et Mad Men. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça nous donne ça.
Ils viennent se chauffer.
Je me demandais quelle heure il pouvait être.
Et toi aussi, tu viendras.
J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, me décrivaient l'étendue de la campagne déserte.
Voilà ce qui traîne dans la tête de Denis Arcand.
C'est bien, hein,
au moment où je vous parle. Bien, Denis Arcand, vous êtes dans Pop 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 et nous sommes ravis. Ne bougez pas, on parle de votre nouveau film La Chute de l'Empire américain, juste après un morceau des Franz Ferdinand qui s'appelle Right Action.
Go.
Right Action, Franz Ferdinand, c'était en 2013 sur l'album Right Thoughts, Right Words, Right Action. Ça fait beaucoup de right. Et en 2019, dans Pop 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 sur France Inter, right? Yeah. Denis Arcand, commençons par l'essentiel. Votre prénom qui s'orthographie avec un Y. Ça vient en direct du grec, hein, de Dionysos, dieu de la vigne, donc du vin, donc de l'ivresse, donc du débordement, donc de la démesure. Vous vous retrouvez là-dedans?
Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, en 1941, quand je suis né dans un petit village québécois, le prénom Denis n'était pas très répandu. Mm-hmm. Même, et ma mère, qui voulait être très originale, m'avait appelé Denis avec un I, tout simplement. Au bout de 6 mois, il y a un autre petit garçon qui est venu au monde à l'autre bout du village. C'est un village de 1000 habitants. À l'autre bout du village, et les parents l'ont appelé Denis. Ma mère était horrifiée. Était insultée et elle a dit « On va changer ton nom, tu vas maintenant écrire avec un Y de façon à te distinguer de cet autre garçon. » Ce qui me cause des ennuis considérables parce que sur mon certificat de baptême, c'est un I et après, sur mon permis de conduire, c'est un Y et mon passeport aussi. Donc, des fois, aux douanes, on dit « Vous n'êtes pas le même, voilà, expliquez-nous ça, etc. » Et tout ça est de la faute de ma bonne mère.
Bon, voilà un mystère dissipé. Vous voulez nous parler aujourd'hui de la chute de l'Empire américain, le troisième volet d'une trilogie ouverte en 86 avec le déclin de l'Empire américain, poursuivi en 2003 avec les invasions barbares, même si tout cela ne relève pas d'un plan préétabli. Le déclin, c'est une comédie policière et une fable philosophique. Quel impact va avoir l'argent sur un jeune homme intelligent et altruiste? Bande-annonce.
Bonjour Monsieur Bigrat, est-ce que je peux aller vous reconduire?
À quel honneur.
J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent.
On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles.
C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash.
T'as pas de bon sens, hein, de gaulliste.
T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi.
J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher.
Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins j'aurais essayé.
La chute de l'Empire américain de Denis Arcand. Alors j'en parlais à l'instant comme d'une trilogie, mais en fait c'est en tournant le dernier film que vous avez compris qu'il se rattachait aux 2 autres. C'est bien cela?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ce dernier film-ci avec comme titre de travail « Triomphe de l'argent ». Et puis finalement, les gens avaient de la difficulté à retenir ce titre. Je sais pas pourquoi. Ils me disaient « Ouais, ton truc sur l'argent, là, ouais, la victoire de l'argent ou la suprématie de l'argent ». Là, je me suis dit, bon, non, c'est un titre, il faut que ce soit ça, que ça cogne, que ce soit simple. Et puis aussi, l'autre gens me disaient, oh, l'argent, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas rien savoir de l'argent. L'argent, ça m'emmerde, etc. Et là, je me suis dit, non, ça ira pas du tout. Et puis là, comme j'avais fait déclin de l'Empire américain, à Vincent Barbara, je me suis dit, tiens, rattachons tout ça, puisque c'est aussi une description du monde dans lequel on vit. Donc, appelons ça « Chute de l'Empire américain », puisqu'il y a un livre célèbre en histoire anglaise qui s'appelle « Le déclin et la chute de l'Empire romain ». Bon, voilà.
En quoi le film est-il plus tendre que ce que vous aviez en tête au début? Ce que j'ai lu en interview, vous disiez que finalement, il était presque un peu plus doux que ce que vous aviez imaginé.
Oui, je crois que c'est moi qui deviens plus doux.
Avec l'âge.
En vieillissant, avec l'âge.
Bien
avec
sentimental en vieillissant.
Oui, c'est vrai. Hein?
Et oui,
bien sûr. On a des enfants, notre attitude change, etc. Puis le sujet aussi change, dans le sens où, quand j'ai écrit le premier déclin de l'Empire américain, j'avais 40 ans, mon premier mariage venait de se terminer, et je vivais dans un désarroi complet, et tous mes amis autour de moi étaient dans des divorces, et tout le monde couchait, c'était la belle année, et les belles époques des années 60, donc tout le monde couchait avec tout le monde, et c'était un salmigondi incroyable de relations, et c'est ça que j'ai décrit à cette époque-là. Après, à l'âge de 60 ans à peu près, la mort a commencé à être présente dans ma vie. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père et ma mère. Il y avait des gens qui commençaient à disparaître autour de moi. Et donc là, c'est devenu un film plus grave, plus sérieux, etc. Après ça, là, j'ai commencé maintenant sur ce sujet-là à me dire qu'est-ce qui finalement est resté de tout ça? Parce qu'on a perdu toutes les valeurs auxquelles on croyait. Il n'y a plus personne qui croit à la religion, qui croit au marxisme, à la société sans classe. Tout est un peu disparu. Il reste que le fric. Et on finit par toujours parler de fric. Et même dans mon métier, on parle de combien vous avez fait d'entrées la première semaine, combien Houellebecq a-t-il vendu d'exemplaires les premiers deux semaines, etc. Et ça devient l'aune à laquelle on mesure tout. On parle de Warhol, quand c'est Warhol, il est rendu à 8 millions. Ses toiles sont à 8, on espère qu'à la prochaine vente, ça va être 12. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça? Et en voulant parler d'argent, et en parlant d'argent pour ceux qui en ont trop, il y a aussi ceux qui n'en ont pas du tout. Et donc, en s'intéressant à ça, ils ont une énorme présence dans le film. C'est des SDF. Et là, j'avoue que j'ai été gagné par une sorte d'admiration pour les gens qui s'en occupent, qui travaillent, parce qu'il y a des gens admirables dans le monde. Et donc, le film n'est pas cynique, noir, ni désespéré, parce qu'il y a des gens formidables.
Mais alors justement, vous dites qu'on vous a souvent fait un injuste procès en pessimisme. Est-ce que vous diriez pour autant que La Chute de l'Empire américain est un film optimiste?
Ben, je ne sais pas qu'il est optimiste. Ce serait peut-être trop dire. mais au moins, ce n'est pas tout noir. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui aident d'autres. Il y a une générosité ambiante, une charité qui est indéniable.
On vous aime pour votre cinéma, Denis Arcand, et pour votre goût du dialogue fleuri. Tout le monde a encore en tête, par exemple, cette réplique mythique des invasions barbares.
Son cœur s'est arrêté de battre pendant que sa maîtresse, l'admirable Madame Steinel, à genoux à ses pieds, lui prodiguait avec fermeté le pompier de tous les pompiers.
Mon Dieu!
Ses ennemis s'écrièrent, il voulait être César. Hélas, il ne fut que Pompée.
Réplique dans laquelle nous sommes très nombreux à nous retrouver, bien sûr.
Ah ouais. Je propose qu'on s'apesantisse un instant sur cette révélation. Le point de départ de La Chute, c'est un véritable et invraisemblable hold-up qui s'est déroulé en plein jour dans les rues de Montréal, et vous vous êtes dit que ça ferait une bonne intro de film.
Oui, voilà. Parce que malgré le fait que je fasse des films intellectuels où des gens parlent très bien et puis disent des répliques pleines d'esprit, enfin j'espère pleines d'esprit, chez chaque cinéaste, il y a toujours un fond de désir de faire des films policiers, des westerns, les formes iconiques du cinéma. Il n'y a rien de plus agréable que de tourner des mitraillettes, des coups de feu, des gens qui meurent, du sang qui gicle. Et ça, c'est un plaisir presque enfantin. Et j'avais fait ça dans mes tout premiers films dont vous ne pouvez pas vous souvenir car vous n'étiez pas au monde quand j'ai fait ces films-là. Mais j'ai retrouvé le plaisir de faire ça avec celui-ci. Et c'est magique parce que ça démarre un film sur les chapeaux de roue. Il y a des gros sacs d'argent, il y a 12 millions de dollars. Et dès que vous établissez ça, là, il y a des règles auxquelles on ne peut pas déroger. C'est-à-dire, il y a des policiers, il y a des méchants, il y a les bons. Vont-ils se sauver? Vont-ils
aller à temps,
etc. Voilà.
La chute de l'Empire américain s'ouvre sur une scène entre le héros et sa future ex. Il lui dit, si t'es intelligent, pourquoi n'es-tu pas président d'une banque? Il lui répond, c'est parce que je suis trop intelligent. L'intelligence est un handicap. Vous l'avez toujours su ou vous avez entendu quelqu'un émettre cette hypothèse?
Non, c'est un dîner célèbre. C'était un dîner parisien où il y avait des gens célèbres, très connus, très intelligents. Et quelqu'un a évoqué une faillite célèbre à Paris, celle de M. Jean-Marie Messier. Et quelqu'un a dit, le ministre des Finances qui était là, a dit, c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Et là, un financier célébrissime dont vous vous doutez de l'identité a dit, vous savez, en affaires, je ne crois pas que l'intelligence soit un grand avantage, je dirais même que c'est un handicap. Quelqu'un qui parle tout doucement comme ça.
Oh, je vois qui c'est.
Donc, je me dis, cette phrase m'a hanté.
Ben justement, je reviens à cette personne-là qui a fait cette réflexion lors de ce dîner, ce financier mystérieux. Vous ne nous direz pas son nom, mais ce jour-là, par exemple, est-ce qu'il a repris du dessert Bernard Arnault? Non, parce qu'il paraît qu'il aime bien ce coin frais.
Je n'en sais rien, monsieur. Vous ne m'engagerez pas sur ce chemin glissant.
Bon, est-ce que c'est lui aussi qui a inspiré la réplique sur le clitoris qu'on entendait dans Le Déclin de l'Empire américain? Je cite, le clitoris qui est parfois aussi difficile à trouver qu'une chenille sur un damier.
Non, mais ça, c'était un péché de jeunesse.
T'as péché de jeunesse, pardon. Denis Arcand, La Chute de l'Empire américain, le film recommandé par Pop. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous, on n'en a pas fini avec vous. Est-ce que vous savez faire ça?
Non.
Bah. Oh, si, il est pas mal. Oh, c'est un petit pop québécois, okay. quoi. Bon, c'est juste pour lancer.
Je fais mon passé, mais c'est pas un jeu. Okay. Laissez-moi le temps de pratiquer, je vais y arriver.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
George Clooney de retour devant et derrière la caméra pour une série que d'ailleurs il produit, Who Else? La mini-série en question est une adaptation du classique de Joseph Heller, Catch 22, l'histoire de Yossarian, un bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale qui essaie désespérément de se faire passer pour un fou pour rester au sol. Au casting, outre Clooney, Kyle Chandler, Hugh Laurie et Christopher Abbott, vu dans Girls, dans le rôle principal, premier teaser.
You're saying he's had his balls blown off. Approximately, sir. I want to see.
Move! Holy Moses! Don't kill the ghost!
You still think you're gonna get out of here?
You're out of here!
What? What is this nonsense?
Insanity is contagious.
Hip hip! Hip hip!
Arrivée de Catch 22, ce sera le 17 mai sur Hulu.
Notre découverte du jour s'appelle Ralph J. Triumfo et sa particularité, c'est qu'il joue de la guitare avec des baguettes chinoises. Absolument. Une vidéo intitulée 1% de talent pour la guitare, 9% pour le talent avec des baguettes, 90% de talent pour le montage. Et voici ce que ça donne sur Bohemian Rhapsody de Queen. C'est assez beau. Hein.
Oui, c'est assez joli. Mmh. C'est rigolo, on entend le clic des baguettes.
Une vidéo menée à la baguette, donc.
C'est excellent.
Qu'on vous met sur la page de Pop à Pop sur France Inter.
Ne laissez pas vos enfants jouer avec des poupées. On nous avait prévenu à la fin des années 80. L'avertissement est toujours valable car le revoilà. Chucky, la poupée maléfique, revenue traumatisée. Une famille en 2019 dans Child's Play.
At Caslon, we believe that happiness is about more than entertainment. It's about being known, understood, loved. Introducing your new best friend.
People, let me tell you about my best friend.
Chucky?
Pas de poupée. Child's Play avec la géniale Aubrey Plaza, c'est bientôt sur les écrans et dans vos coffres à jouer.
France Inter. Pop pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Chucky.
Ça bouillonne dans le fond de la flûte. Merci, Charline.
Je vous en prie.
Denis Arcand, vous restez avec nous avant d'accueillir un sale gosse du stand-up pour tracher nos oreilles en nous parlant d'humour noir. Faisons-leur un petit plaisir à ses oreilles. Prince 1999. We'll be right back. Prince 1999, c'était sur l'album 1999, qui n'est pas sorti en 1999, mais en 1982. C'est
beaucoup trop de dates.
Bon, enfin bon. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Denis Arcan et vient de nous rejoindre Aymeric Lomprey. Bonjour.
Bonjour.
Aymeric Lomprey. Alors, je disais tout à l'heure en début d'émission que vous avez fait les premières parties de Blanche Gardin. Ça vous fait quoi de faire la deuxième partie de Pop Pop Pop?
je suis encore plus heureux là.
C'est vrai?
Ouais. Ah bah, mais beaucoup plus stressé.
C'est un sommet. Non, détendez-vous. Je vous présente Denis Arcan. Alors, ne le froissez pas, s'il vous plaît, avec une vanne sur le Québec, ou alors froissez-le tout de suite et puis on n'en parlera plus.
Oui. Une vanne sur le Québec?
Je veux vraiment si ça vient tout seul. Hein, sinon...
Gilbert Rozon.
Ok.
Il y a tout, il y a le début, il y a la chute là-dedans, il y a tout. C'est toute une histoire.
Alors, je vous parlais des premières parties de Blanche Gardin, mais elle aussi a fait la première partie de votre spectacle qui s'appelle Tant pis. Et comme nous ne reculons devant rien dans Pop Pop Pop, nous allons vous diffuser cette première partie en entier. Écoutez Blanche Gardin.
Salut, c'est Blanche Gardin.
Bon, c'est vrai que c'est un peu court.
Elle n'est pas très loquace.
C'est un peu court, mais c'est chic. Vous n'aviez pas les moyens de...
Non, c'est vrai qu'elle a fait que ça à l'européen, ouais. Ouais. Mais ça me faisait rire qu'une... Parce que c'est une grosse vedette, en fait, un peu blanche en ce moment. Et ça me faisait rire qu'elle fasse juste 10 secondes. Et que ensuite, ce soit moi qui interviens.
Alors, au départ, vous n'aviez pas de nom pour ce stand-up. Vous êtes donc allé écouter ce que disaient les gens à la sortie. Et ce que vous avez retenu, c'est... Tant pis, qui revenait le plus.
C'était ça, où sont les toilettes?
Ouais.
On a gardé tant pis.
C'était trop boulevard, où sont les toilettes?
Tant pis.
Fallait mettre des perruques et tout.
Donc ça aurait pu être pire aussi.
Tant pis, c'est déjà.
Tant pis, c'est déjà pas mal, ouais.
Moi, j'irais pas voir un spectacle qui s'appelle Tant pis.
Mais ceci étant, on connaît un réalisateur qui a payé très cher d'avoir fait figurer sur son affiche de film N'y allez pas, c'est de la merde.
Oui, mais ça a pas marché.
Ah ouais? Ah oui. C'est ça?
Ouais,
ça peut porter préjudice.
Ouais. Merde. Le temps va changer.
Oui,
on va mettre finalement où sont les toilettes.
On parlait avec Denis de l'importance des titres. Hein, il faut qu'un titre c'est fondamental. Donc tant pis. Le vôtre s'appelle Tant pis.
Ouais. Après, je pense que c'est plus important au cinéma que nous au théâtre.
Ouais, peut-être parce que finalement les gens ils s'attachent à vous.
Oui, c'est exactement. Ouais.
C'est une personne, puis quand on l'aime, le titre en fait.
Au cinéma, les réalisateurs, on s'en bat les couilles.
Bah, c'est moins présent.
Mais c'est vrai. Alors, on s'en bat les couilles, c'est pas une expression québécoise, ça, on est d'accord.
Non plus.
On essaie de retrouver les phrases. Alors, Aymeric, bon, on s'en bat quoi d'ailleurs au Québec?
Alors, la vraie qui serait très. Puis elle est absolument contre. On s'en contre calice. On s'en contre calice. Ça, c'est... Tous les Québécois, en fait, comme ils étaient tous catholiques, c'est toujours un rapport à la religion. Mm-hmm. Alors, c'est le calice. Les hosties sont... Mm-hmm. Bon, alors, on ne dit pas calice, on dit calice. Contre calice.
Contre calice.
On s'en fout, mais... Complètement.
Très bien, vous avez noté, s'il vous plaît, Charlie.
On s'en contre calice, bien sûr, tout à fait.
Et là, ça c'est... Et ça, vous allez faire un succès baf avec les Québécois.
Aymeric Lomprey, avant de vous accueillir, j'ai pris un malin plaisir à dire que vous faisiez de l'humour noir, car vous dites, à partir du moment où on dit qu'on fait de l'humour noir, c'est qu'on ne fait plus d'humour noir.
Ouais, c'est de moi ça.
Qu'est-ce que vous faites alors?
De l'humour.
Pas noir.
Non, c'est vrai, en ce moment, c'est un peu la mode de vouloir mettre une caractéristique à l'humour, et je pense que j'essaie juste de faire de l'humour drôle, quoi.
Mm-hmm. Trouver une autre
couleur,
sinon.
Notre couleur. Pour que les gens rient jaune.
Voilà, ça. Non, ou de l'humour beige. C'est rarement fait.
Ouais, de l'humour beige. Ouais, je fais de l'humour beige maintenant.
L'humour beige, très bien.
Pour les musiciens, on a souvent la question dite de l'album de la maturité. Pour les humoristes pratiquant votre style de rigolade, c'est plutôt peut-on rire de tout? Combien de fois est-ce que vous avez eu à y répondre à cette question?
Ouais, trop. Trop de fois, ouais, peut-on rire de tout, ouais.
Vous avez réussi à échafauder une vague réponse, du coup, ou pas? Vous avez une réponse toute prête
Du moment que c'est drôle.
Ouais.
Pour revendiquer, Aymeric, un humour qui n'est pas moralisateur, vous ne jouez pas les philosophes des temps modernes, vous voulez juste faire marrer les gens. Mais justement, est-ce que ce n'est pas le premier rôle d'un stand-upper?
Ouais, mais je pense qu'il y en a pas mal, en fait, en ce moment, si on peut écouter les interviews de, pas seulement d'humoristes, d'artistes, qui ont cette volonté de vouloir, genre les gens qui terminent leur spectacle en disant « réalisez vos rêves », non, moi je pense que chacun fait
ça. Plantez-vous, les gars!
Non, mais vraiment, je veux dire.
C'est la phrase la plus conne. Les rêves.
Ouais, réalisez vos rêves.
Allez-y, vos rêves. Mais non, vous n'avez aucun talent, voyons. C'est comme... Oui, mon rêve, c'est de jouer pour l'équipe de France. Non, vous êtes trop gros, vous êtes beaucoup trop lent, vous n'y arriverez pas. Sauf que dans le show business, on pense toujours que tout est possible.
Ouais.
Alors, en sport, ça ne serait pas possible. Alors, on dirait, mais non, voyons.
Parce que les stars se sentent supérieurs aux autres.
Ben oui, bien sûr.
On est d'accord que vous n'êtes pas coach en motivation, hein, tous les deux.
Non, non, pas,
mais... non, de... pas de consulte. Pas de...
On veut plutôt décourager.
On est deux losers, en fait.
Mais ça, ça colle. Oubliez ça, il n'y a pas de rêve. Vous y arriverez jamais.
Ça colle très bien, j'ai l'impression. Hein, Denis Arcand et Émeric Lompré, non? Pourriez nous faire un petit duo, tous les deux. Bon, pour qu'on sache exactement de quoi nous parlons, écoutons un petit extrait de votre spectacle.
J'ai essayé plein de trucs pour aller mieux. Moi, je suis allé dans un groupe de parole et j'ai rencontré un pote à moi, Jean-Claude, il revenait d'Afghanistan, Jean-Claude. Et il m'a dit, on ne fait plus. Il m'a dit, ça fait marrer que toi. Et il m'a dit, pissez sur tes potes, enculez des chèvres et mangez du rat. Ben c'est vrai qu'on est loin des 5 fruits et légumes par jour. Enfin, non, moi j'étais comme vous, j'ai dit mais pourquoi vous mangez pas les chèvres? Il m'a dit parce qu'on a pas envie d'enculer des rats.
Alors vous dites que Télérama a vu le spectacle. Alors
moins de thé. Ils n'avaient jamais vu ça. Ouais. Moins de thé, ouais.
Dans les nuances d'humour pratiquées ces jours-ci sur les scènes de stand-up, on trouve absolument de tout. Hein. Et vous occupez un créneau particulier, comme on dit dans les auto-écoles, celui plein d'une fibre sociale, à la fois comme dit Le Parisien, sans posture ni condescendance.
Ouais, carrément. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire de l'humour, c'est de un peu plus sérieusement de dénoncer ces inégalités sociales quoi qui existent encore en. Mm-hmm. En 2019, et c'est ça qui m'a le seul truc qui me fait rire, c'est ça en ce moment quoi. C'est puis on le voit avec les gilets jaunes et tout, c'est cette société qui de plus en plus se divise entre les pauvres d'un côté et les riches de l'autre, et c'est ça le fil conducteur de ce spectacle là. Mmh. Après peut-être qu'il y aura un autre fil conducteur plus tard, mais je tombe un peu bien en plus dans l'actu. Et ouais, c'est là-dessus pour lequel c'est social.
Et voilà un point commun de plus avec Denis, dont le film parle du besoin, de la solidarité, du besoin de l'altruisme pour contrebalancer la dureté du monde.
Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui ont trop d'argent et des gens qui n'en ont pas assez.
Bon, bah tant pis, comme on est là, on va rester. C'est ce que vous allez vous dire en allant voir Émeric Lompré, c'est à l'Européen. Et tant pis, c'est du mardi au jeudi à 20h à l'Européen jusqu'au 30 avril. Et j'irai, parce qu'en fait, moi, je suis allé la semaine dernière, mais vous étiez à Lyon ce soir.
J'étais à Lyon, ouais.
Ah oui, c'est
ouais, il a fallu que je parle très fort.
Ça s'appelle un quiproquo, donc je vais venir vous voir.
Mais ouais, venez.
Et qu'est-ce que vous êtes dit, du coup, quand vous êtes retrouvé devant la grille
Je me suis dit, je reviendrai.
Non, vous êtes dit, tant pis.
Charline, maman, vous êtes tellement...
Je vais aller débriefer avec moi-même hors le studio.
Oui, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Émeric Lompré, Denis Arcand, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais. Oh, t'es encore là, toi? Non, mais attends, tu m'as déjà fait le coup avec Hubert Lenoir. Faut arrêter de squatter ma cave dès qu'il y a un Québécois. Alors quoi, attends, comme Émeric Lompré de Lille, la prochaine fois j'ai le droit à Martine Aubry, ici, c'est ça? Non, c'est pas possible, allez, j'en vais faire. Ah, allez! Oh, excusez-moi. Bon, on va jouer un peu de bonne musique. Because the Night, par exemple, tiens, version Springsteen, évidemment.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand the way I feel when I'm in your hands. Take my take
Because the Night, version Bruce dans Pop 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 sur France Inter. Bruce. Cet extrait de l'album The Promise, c'était le batteur des Arctic Monkeys au début.
Ah oui, celui qui a eu le nez de partir.
Voilà, c'est extrait de The Promise, sorti en 2010. Denis Arcand, Aymeric Lomprey, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous tous les deux laisser comme souvenir?
Je t'en prie, vas-y.
Alors, vous le tutoyez dans
il faut que vous écriviez, on n'a pas le droit. Denis. Ah, il faut écrire sur une feuille manuscrite cette merveilleuse expression « on s'encontre calice ». Si vous mettez ça dans la cave et qu'il y a quelque chose dont vous voulez vraiment plus entendre parler, vous la sortez, vous le dites et puis tout le Québec vous applaudit.
Très bien, bon, on va le faire encadrer et ça sera dans la cave et c'est le cadeau de Denis Arcand. Et vous, Aymeric Lomprey?
Du coup, je vais laisser ma première cassette VHS que j'ai eue, c'est un spectacle de Gad Elmaleh. Ouais, que je vous laisse bien volontiers.
Très bien, il appréciera. Merci Denis Arcand, La chute de l'Empire américain. Votre film sort mercredi prochain. Et évidemment, il est recommandé par Pop Pop Pop. Merci Aymeric Lomprey. Tant pis, c'est à l'Européen à Paris du mardi au jeudi jusqu'au 30 avril. Vérifiez quand même avant les dates pour ne pas vous emmêler les pinceaux comme moi. Merci.
Merci à vous.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Jérémy Guillon, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production. À la programmation musicale Djoubaka et Alice Delcourt, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, l'écrivain Julien Blangras et la comédienne Noémie Schmitt. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuf ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos au karaoké Garou sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 36 cases, pop, 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 sur Instagram et Twitter.